Pour ceux qui n'étaient pas au cours la dernière fois, je rappelle que nous étudions les différents éléments de la prudence, de la personne humaine, l'autonomie, le développement et la recherche de la vérité, le point de vue de l'amour, libre de l'amitié, le point de vue pratique, alors la prudence et l'art, les deux aspects, l'art c'est-à-dire le facere, l'activité de l'homme pour se construire un milieu vital, un milieu capable de lui permettre de se développer. Et puis, en dernier lieu, le point de vue du corps. Le corps fait partie essentielle de notre personne. Alors, des questions ici sont sur la prudence. Parce que, évidemment, c'est un point de vue très complexe, celui de l'art et de la prudence. L'équilibre entre les deux. Nous avons tous un tempérament, puisque la question du tempérament intervient dans la prudence. Nous avons tous un tempérament qui est plus orienté vers la prudence ou qui est plus orienté vers l'art. On verra ensuite, je ne le vois pas maintenant, mais on le verra ensuite, que ça fait deux types de personnes très différentes. La personne humaine prudentielle, le Normand vaincu, hein, comme les Normands sont victorieux et vaincus, il y a les deux Normands. Alors, un type de personne très particulier. Et puis, un type de personne très différent, l'artiste. Et ça joue très fort au point de vue des personnes. Et puis, il y a la prudence politique qui vient s'ajouter à la prudence ordinaire. Puis il y a le type personne humaine affective, plus ou moins affective, et puis le type de la personne humaine intellectuelle, contemplatif. L'autonomie est présente à tout. À tous, mais très différentes. L'autonomie de l'artiste est très différente de l'autonomie du prudent. L'autonomie de l'affectif, de l'ami, est très différente de celui qui recherche la vérité. C'est très intéressant de regarder ces types différents de personnes. Et avant de regarder ces types différents, nous regardons les éléments de la personne. Je ne peux pas être une personne humaine si je fais une croix sur la prudence, même si je suis artiste. Il y a un minimum. La prudence de l'artiste est quand même très différente de la prudence d'un homme très prudent. Mais la prudence d'un homme à l'égard de son corps est très différente de l'artiste et de l'homme prudent, du contemplatif et de l'affectif. Donc, alors ici, les questions sont sur le cours précédent, sur la prudence. La prudence unifie les vertus cardinales, Les vertus cardinales, vous savez ce que c'est. Et elles-mêmes orientent vers la finalité. Elle oriente, elle est liée à la finalité. C'est plus qu'orienté. L'homme prudent est lié à la finalité. Et il oriente les vertus cardinales vers la finalité. Mais il arrive que la prudence prend la place de la finalité. Ou bien qu'on accentue tellement la finalité qu'on ne fait plus attention à la prudence. Les deux cas. Quel est le rapport vrai entre la finalité et la prudence? Comment éviter de les bousculer? C'est justement ce point de vue des différents éléments, comment ils sont différemment mêlés. C'est ce que nous allons voir après, ça. Je ne le vois pas maintenant. Il est bien évident que le type de la personne artiste, on a tous vu dans sa vie des artistes. Il y en a parmi vous. Donc, le type de l'homme artiste, eh bien, il est souvent très difficile pour cet artiste de comprendre le type d'un homme prudent. Il y en a plus parmi vous qui sont du type prudent que du type artiste. C'est normal. Hein. Les artistes dans la vie religieuse, aujourd'hui on fête Frangelico, on voit très bien. Je l'aime beaucoup, Frangelico. Et on l'aime tous beaucoup, Frangelico. Mais Frangelico ne devait pas être toujours commode à vivre pour son prieur. Oui. C'est que l'artiste, il a des exigences d'artiste qui réclament que la prudence se taise pour pouvoir aller jusqu'au bout. Elle est là. Elle est présente. Mais elle doit pouvoir se taire. Et c'est pas commode. Alors, l'ami de l'artiste peut lui dire comme ça, attention, attention, attention. Mais l'artiste fonce. Si l'artiste ne fonce pas, il ne sera jamais artiste. Alors, dans l'artiste, il y aura des moments, quand on regarde de l'extérieur, on dit ce qu'il est imprudent. Et pourtant, je l'avais averti. Je lui avais dit d'être prudent. Il ne comprend pas la prudence. Alors, de l'extérieur, il la comprend très bien. Mais de l'extérieur, on aura envie de juger. C'est pour ça qu'on ne peut jamais juger. Et quand l'artiste, lui, voit son frère, son ami, très prudent, il dit, oh, ce qu'il est prudent. Il ne comprendra jamais ce que c'est que quand même y aller un bon coup parce que c'est nécessaire. Alors, c'est très vrai, cet équilibre est personnel. On n'a rien à dire là-dessus. On constate des extrêmes. Quel est le plus vertueux? Quel est le plus vertueux? C'est une très mauvaise question, ça. Parce que la personne n'égale pas la vertu. voyez, pour certaines personnes, l'homme très vertueux, c'est l'idéal. C'est pas l'idéal. Un homme très vertueux qui tout ferait, tout l'artiste qui est en lui, aurait une mauvaise personnalité. Un homme très vertueux qui étoufferait en lui toutes ses aspirations intellectuelles, ce serait une mauvaise personnalité. Et la personne est au-dessus de la vertu. Elle touche la sagesse. Ah. C'est la sagesse qui peut seule équilibrer la prudence, qui est la vertu cardinale majeure, et l'art. On y reviendra là-dessus. Comment faire pour connaître son irascible et son concupiscible? Est-ce que c'est seulement en étant de temps en temps imprudent? Bonne excuse. Ainsi, on touche à ses limites. Comment éduquer sa prudence à l'imprudence du Saint-Esprit? Je ne peux pas dire l'imprudence du Saint-Esprit. La super prudence n'est pas une imprudence. C'est une super prudence. Oui. C'est la dialectique entre prudence et Saint-Esprit n'est pas juste. Saint-Esprit n'est pas imprudent. Il est super prudent. Alors, vu de l'extérieur, vu au niveau du canard enchaîné, c'est une suprême imprudence. Le Saint-Esprit, au point de vue du canard enchaîné, c'est une super imprudence. Mais le canard enchaîné ne voit pas qu'au terme, il sera en face du Saint-Esprit. Qui lui dira, là, tu n'as pas compris l'action que j'avais. Le Saint-Esprit est super, il n'est pas imprudent, il est super prudent. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on veut dire par la finalité et métaphorique. Je suis très heureux que vous n'arrivez pas à comprendre. Je ne vous demande pas du tout de la comprendre. Parce que la finalité n'est pas métaphorique. Donc, et pourtant, pendant 400 ans, les théologiens ont répété ça. Et c'est la force d'une tradition qui n'est pas juste. La tradition a été mal comprise, là, à ce moment-là, et on a répété. Qu'est-ce que ça veut dire, la finalité métaphorique? La finalité métaphorique, parce que la finalité, c'est au-dessus de la prudence. La prudence est guidée par la finalité. Quand j'entre au couvent, je le fais sous l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est bien évident. Je le fais sous l'action des espèces. Sauf si là, je suis très conscient que j'entre au couvent uniquement pour... J'avais, dans mon noviciat, quand j'ai fait mon noviciat chez les Dominicains, il y avait un novice qui venait de la franc-maçonnerie. Donc c'était pas sous l'action de l'Esprit Saint. Il venait par curiosité, comme inspecteur, pour voir la vie d'un moine et d'un petit moignon. d'un novice. Et au bout de 6 mois, il est parti. Bon, mais normalement, là c'est, ça c'est la taupe. Hein. Ben, la taupe, elle n'est pas venue par le Saint-Esprit. Elle est venue par des groupes sectaires qui veulent savoir. Mais autrement, on est venu par le Saint-Esprit. Donc, l'entrée en religion, et pour ceux qui nous connaissent bien, toujours un acte au-delà de la prudence humaine. C'est pour ça que vérifier la vocation par un psychologue, c'est très... Pour moi, ça ne signifie rien. Le psychologue, tout psychologue, verra que c'est une imprudence. C'est une imprudence. C'est une super prudence. C'est pas une imprudence. Si vous vous laissez mener toujours par la prudence humaine, vous serez comme le petit toutou avec un collier. Et puis, il y aura quelqu'un qui vous conduira, mais ce quelqu'un n'est pas le Saint-Esprit. Ce sera ce qu'il est normal de faire, vu les qualités que vous avez. Vous allez entrer au noviciat, vos qualités, elles ne s'épanouiront plus parce que votre père Mato ne vous comprendra pas. Oui, distinguons la super prudence et l'imprudence. Ça, c'est capital. L'action de l'Esprit Saint en nous est toujours super prudence. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'agir pour la prudence. Il vous laisse agir. Le Saint-Esprit ne luttera jamais contre la prudence. Tu veux la prudence ? Vas-y. Mon cher, vas-y. Moi, je te dis, tu peux plus. Tu peux faire mieux. Alors, je pousse, mais si tu résistes, résiste. Si tu veux te conduire au point de la prudence, vas-y. Vous voyez, c'est quand même très important de considérer que tout acte qui est fait selon les dons du Saint-Esprit est super naturel. Il est selon les exigences surnaturelles de foi, d'espérance et de charité. Au point de vue de la foi, ce n'est pas imprudent de se faire religieux. C'est même la voie la plus directe pour aller vers le ciel. Vu le tempérament très fort que je peux avoir, vu le tempérament très, très bouillant que je peux avoir, et je le sais très bien, si je restais dans le monde sans avoir l'exigence surnaturelle, je casserais les poteaux. C'est bien évident. Mais le Saint-Esprit me tient. Vous voyez, et le psychologue, comme psychologue, ne peut pas voir l'action du Saint-Esprit. Il ne la voit pas. Elle lui échappe. La vocation n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. En éthique humaine, je ne vois pas. Il pourra exceptionnellement y avoir des... Mais exceptionnellement, il n'y aura pas des groupes, une communauté. Et il faut aujourd'hui... Dans le monde d'aujourd'hui, il faut, impossible autrement, être très net sur ce qu'un médecin peut dire, comme médecin. Il faut avoir des amitiés chez les psychanalystes. Il faut avoir... avoir des amis. Et quand on a des amis, on traite avec eux la distinction du point de vue surnaturel et du point de vue naturel. Et quand ils sont chrétiens, ils acceptent cette distinction. Alors, je n'arrive pas à comprendre ce que on veut dire par finalité et métaphorique. Non. La finalité n'est pas métaphorique. La finalité est la cause des causes. Donc elle est plus forte que toutes les causes. Mais elle reste humaine, la finalité philosophique que j'étudie en philosophie. Et l'action du Saint-Esprit est non pas métaphorique, non pas finalité humaine, mais elle est supra. L'action des dons du Saint-Esprit dépasse toujours. Je n'éduque pas le Saint-Esprit. Je suis éduqué par le Saint-Esprit. Des quantités de personnes veulent éduquer le Saint-Esprit. Même des théologiens veulent éduquer le Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit sont tout simplement ce que moi, je considère comme étant bien, étant très bien, vu les circonstances. Non, je suis éduqué. C'est celui qui est mu. C'est pas pour rien que Jésus prend toujours « Soyez comme des enfants, des tout-petits. » Parce que cela se laisse conduire. Est-ce que cela signifie que le bien n'est qu'une idée ? Oui, alors, vous voyez, il demande si quand on dit que la finalité est métaphorique, cela signifie que le bien n'est qu'une idée. Oui, exactement. Alors que le bien n'est pas une idée, il a sa force d'attraction. Le bien m'attire. Eh bien, cette attraction du bien que je peux expérimenter, je suis finalisé, il m'attire. Toute espèce de bien, le bien sensible m'attire. J'ai très faim et je suis à côté de quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que tu désires manger aujourd'hui puisque tu as très faim ?» Vous choisissez ce qui vous attire. Bon, ça, vous en avez une expérience. Et si vous êtes au-dessus, vous direz « Ça m'est égal, prends-toi ce que tu désires, je le ferai. » Mais on accepte de ne pas suivre son appétit, l'attraction du bon beefsteak. Parce que le bon beefsteak peut vous attirer quand vous avez faim. Bien cuit, hein. Il peut vous attirer. Le charolais, voilà. Alors, le bien attire. C'est une attraction réelle. Elle n'est pas imaginaire. Elle est réelle. Dire que le bien est toujours une attraction imaginaire, c'est avoir complètement oublié ce que c'est que l'amour. Dites à quelqu'un qu'il aime, ton amour est imaginaire. Il vous flanquera une bonne tape en disant, tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. C'est faux. Cet amour me porte sur cette personne. Et cet amour n'est pas imaginé. Que très souvent, alors c'est autre chose, que très souvent, l'imagination vient transformer votre amour à ça, oui. Très souvent, c'est évident. Parce que quand vous aimez, vous êtes attiré. Cette attraction, qu'est-ce qu'elle est ? elle est intentionnelle. Elle n'est pas complètement réelle, puisque vous tendez vers. Vous n'avez pas acquis ce bien. Vous tendez vers. Donc, il est intentionnel. Et l'intentionnel est très facilement contaminé par l'imaginaire. Parce que l'imaginaire est un intentionnel aussi, mais un intentionnel très fort. L'imaginaire est très fort comme intentionnel, parce qu'il est sensible. Alors, il m'attire beaucoup, mais il est intentionnel. Alors que l'imaginaire soit intentionnel, c'est très bien. Le métaphorique est imaginaire, et il est intentionnel. Alors, je reviens. Comment faire pour comprendre son irascible ? Ah ! De temps en temps, ça peut arriver, vous vous mettez en colère. Les autres voient très bien. À moi, vous n'êtes jamais mis en colère. Si vous n'êtes jamais mis en colère, il y a quelque chose qui vous manque. Être mis en colère. C'est humain d'être colérique et de se mettre en colère quand on est en face d'une injustice. Ce que vous considérez comme une injustice. Vous êtes en colère devant. L'irascible s'allume parce qu'on veut remettre la justice. Que les choses. L'irascible est bon. Ne pas avoir d'irascible, c'est désastreux. Il n'y a rien de plus fatigant que d'avoir quelqu'un qui n'a aucun irascible. C'est toujours très bien. Toujours très bien. Vous savez, c'est la vieille tante qui est arrivée et qui dit, c'est très bien. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut se calmer. Et alors ça augmente encore votre irascible. L'irascible se met en colère devant une injustice. Et devant une injustice flagrante, on n'accepte pas. On ne peut pas accepter. Et on se met en colère. Donc, l'irascible est une passion bonne. Ne pas avoir d'irascible, c'est triste. Il y a des personnes auxquelles on a beau marcher sur leurs pieds. Non. Ils n'ont plus d'irascible. Et ne plus avoir d'irascible, c'est pas du tout être doux. La douceur provient d'un irascible rationalisé, humanisé. C'est pas du tout en tuant l'irascible. Or, certaines éducations peuvent tuer l'irascible quand justement on manifeste trop sa toute-puissance. Quand on manifeste trop sa force. Alors tout jeune, tout petit, on n'a pas osé. On avait peur de la colère de papa. Alors parce qu'on avait peur de la colère de papa, on était comme une souris, un petit coin. Mais dès qu'il était parti, ouit, ça recommençait. Parce que un irascible très fort qui est dépassé par l'intelligence, qui est dépassé par le point de vue surnaturel, peut donner la vraie douceur. La vraie douceur implique la force, tandis que la fausse douceur, la mollesse, n'est pas du tout la force. Et le concupiscible, comment faire pour connaître. Bon, le concupiscible aussi est connu. Première forme du concupiscible à l'égard des petits gâteaux. Celui qui n'a plus aucun concupiscible à l'égard des petits gâteaux, ça, c'est un vieux moine. Et un novice qui dirait à son père maître, je n'ai aucun concupiscible vis-à-vis des petits gâteaux à la fin du carême. Le concupiscible demande d'être dépassé d'abord par la nourriture. Le concupiscible se manifeste dans la nourriture. Et le concupiscible est bon. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de, quand même de savoir goûter les bonnes choses. Ne pas savoir goûter les bonnes choses et prendre tout de la même façon. C'est quand même un peu barbare. Or, la vertu consiste pas à devenir barbare, à marcher à quatre pattes, puis à aboyer. Non. C'est vrai, quand vous donnez au chien ce qu'il faut manger, vous ne le prenez pas pour vous, quand même. Avoir le concupiscible s'éduque. Il s'éduque. Il n'est pas mauvais, mais il s'éduque. Il ne faut pas qu'il dépasse la mesure. Et il soit mesuré par la prudence. Je vous ai donné cet exemple de ces oiseaux voraces, méchants. J'oublie le nom, mais il y en a un nom particulier. Les Africains le savent bien, parce qu'on les voit tout le temps, ces animaux. Ces animaux sont voraces. Et je les ai vus, le concupiscible, se développer chez eux. Quand ils mangeaient et que je pouvais toucher leur tête, ils ne bougeaient pas. Ils étaient entièrement pris par le concupiscible, complètement. Le concupiscible, on voit très bien ce que c'est. Des choses bonnes. Une bonne crème au chocolat. Pendant le carême. On n'en prend pas. Bon. Alors, vous voyez, quand le concupiscible ne peut pas être satisfait, il augmente. C'est pour ça que pendant le carême, on développe le concupiscible. C'est sûr, on a faim, on a soif, et on l'accepte par amour pour Dieu, par l'amour pour le Christ, on l'accepte. Celui qui n'a jamais combattu son concupiscible, l'a toujours voulu. Bon, on sait qu'il y a un coffre-fort où il y a des choses bonnes, hein. Frigidaire, on le sait bien. Et alors, on va prendre. On ne mesure plus. La première éducation est du côté du concupiscible. Ne manger qu'à certaines heures. Ne manger qu'à certaines heures. Tout le monde doit connaître cette éducation. C'est la première éducation. Et cette première éducation doit rester toute notre vie. Alors, il ne faut pas exagérer, vous voyez, parce que le repas de midi peut être à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. Celui qui serait complètement dirigé par les vertus dirait l'heure est passée, à 3 heures, je ne prends pas mon repas. Alors là, ce serait exagéré. Parce que vous y penserez tout l'après-midi. Alors c'est pas bien. C'est une perte de temps. Il faut que ce soit prudent. Et quand le concupiscible est très développé, qu'on est comme le petit chien qui se précipite. Vous avez déjà vu le chien se précipiter sur sa soupe. Surtout quand il y a des os. Il se précipite. Alors là, il laisse aller son concupiscible. Et il n'y a pas de vie commune avec le concupiscible, toujours s'exerçant librement. Première éducation. Et vous verrez, la vie commune deviendra impossible à cause du développement du concupiscible qui n'a jamais été éduqué. C'est impossible de mener une vie commune. Parce que on va prendre dès qu'on a faim, dès qu'on a soif, tout de suite, immédiatement. C'est la première éducation, le concupiscible. Le concupiscible est la passion fondamentale. Et donc, elle est bonne, hein, les passions sont bonnes. Quelqu'un qui n'a plus du tout qu'une passion, c'est désastreux. Donc elle est bonne, mais il faut l'éduquer. Et plus elle est forte, plus elle a besoin d'être éduquée. Et ne plus vouloir l'éduquer, première éducation, le concupiscible. Et l'irascible vient après. C'est déjà une passion plus noble. C'est même une passion très noble, irascible. Et la recherche de la vérité développe un irascible très pur. De voir que les gens ne cherchent plus la vérité. Et qu'on est en face du mensonge qu'on transmet librement. Alors ça vous met complètement en colère de voir ça. Une civilisation qui est commandée par le mensonge, elle ne va pas loin. C'est déjà une fin de civilisation. Parce qu'il n'y a plus ce sentiment de recherche de vérité. On accepte tout. Et alors c'est le signe. Les deux pertes de civilisation, c'est le concupiscible et l'irascible. Parce que ces deux passions qui sont complémentaires, lorsqu'elle se développe librement, supprime complètement la vie commune et donc supprime complètement le point de vue politique. Alors je continue ce que nous avions commencé la dernière fois. Le sixième élément de la personne, c'est le corps. Nous sommes liés à notre corps substantiellement, donc radicalement. On est lié à son corps. Et on n'a pas le corps qu'on aurait désiré. C'est sûr. Surtout pour les infirmes, et même tous. On voit des gens qui sont heureux dans leur corps. On voit des gens qui sont toujours malheureux dans leur corps. C'est très curieux, cette alliance. Ah, c'est Dieu qui a voulu ça. Tu vois, Dieu l'a accepté. Parce que Dieu accepte le concours des causes secondes. Or, les déformations du corps, les infirmités du corps ou l'harmonie du corps ne dépend pas directement de Dieu, mais des causes secondes. Mais Dieu l'accepte. Dieu le permet en vue de notre bien. pour que par telle infirmité, on acquiert telle vertu. Parce que par telle infirmité, on entre dans une pauvreté plus grande. Et donc dans une humilité plus grande. Le corps est notre compagnon le plus immédiat pour notre personnalité. Il y a une connaissance du corps qui doit se faire au point de vue philosophique, métaphysique. Je peux regarder le corps comme le biologiste le regarde. Je me souviens de ce séminaire que j'avais fait à Fribourg. Il y avait un étudiant de Genève qui était là, qui était un Espagnol, et qui était de la famille de Saint-Dominique. Je ne le savais pas. Il s'est présenté à la fin du cours. Et il faisait une thèse de biologie à Genève. Et j'ai dit la parole d'Aristote, que le corps n'est intelligible que grâce à l'âme. C'est par l'âme que mon corps est intelligible. En lui-même, il n'a pas d'intelligibilité. Alors, si vous aviez vu cet étudiant en biologie, il m'a dit alors quoi ? On fait une stupidité d'étudier le corps sans jamais parler de l'âme. Aristote dit carrément, hein, ouvertement, le corps n'est intelligible que par l'âme. Donc, vouloir étudier le corps biologiquement, sans regarder l'âme, c'est se fermer les yeux. C'est donc ne plus connaître le corps humain. Il a une connaissance encore, puisqu'il a été animé. Vous n'avez jamais eu un corps humain qui n'a pas été vivant. Vous avez entre les mains un corps humain qui a été vivant, donc qui a été animé. Il a été animé, mais il ne l'est plus. C'est pour ça que la connaissance que vous avez du corps, sans l'âme, est une connaissance boiteuse. Vous avez le savoir, imparfaite. Et vous voulez qu'elle soit parfaite. Vous ajoutez les mathématiques pour que ce soit parfait. Il est sorti de ce séminaire complètement bouleversé. Il m'a dit, mais c'est quoi ? Alors j'ai dit, mais oui, vous étudiez non pas un corps, mais un cadavre. Il n'avait jamais pensé à ça. On étudie les cadavres et on dit que c'est un corps humain. Et Aristote dit que c'est équivoque. Étudier le cadavre et dire que c'est le corps humain, c'est équivoque. Vous étudiez la cause matérielle. La cause formelle du corps, c'est l'âme. La finalité, c'est l'âme. Alors, vous étudiez quelque chose, le corps a été animé, c'est évident que vous étudiez quelque chose. Il a été organisé de cette façon-là, mais vous ne l'étudiez pas formellement comme un corps humain. C'est la disposition, c'est la cause matérielle. Et c'est vraiment la cause matérielle qu'on étudie. Et les très grands savants, et les savants qui sont, le savent. Et par le fait même, disent toujours, on sait ça, mais on ne sait pas les ressources de l'âme. On étudie le mécanisme, et c'est très intéressant, c'est le domaine des dispositions, mais le corps. Alors, vous voyez, quand vous étudiez le corps humain comme un élément de la personne, vous étudiez le corps humain vivant. C'est le corps humain vivant, uni à l'âme, qui fait partie de ma personne. Dès qu'il est séparé de mon âme, il ne fait plus partie de ma personne. C'est un cadavre. Il a été humain, mais il ne l'est plus. Je crois qu'il faut toujours se rappeler ça. C'est très important. On étudie le corps humain vivant, comme un élément de la personne, comme celui qui est toujours présent quand j'étudie ce qu'est ma personne.